Radio Prague International en français, les informations.
Bonjour, nouvelle baisse de l'indice de risque épidémiologique et passage au niveau 4 d'alerte en République tchèque. Plus de 70 000 personnes ont déjà été vaccinées en Tchéquie et puis basé à Prague, l'empire du porno développé par un Français visé par une enquête policière. L'indice de risque épidémiologique est passé de 81 à 75 points sur 100 et la République tchèque est ainsi passée au niveau d'alerte 4 dans son système national PES, selon les dernières données du ministère de la Santé. En cause, la baisse du taux de reproduction du virus qui était également connu une baisse pour atteindre 0,82. Le passage au niveau 4 d'alerte ne signifie toutefois pas une levée de certaines mesures de restriction en Tchéquie. Pour envisager un premier assouplissement, le pays doit en effet conserver cette situation pendant au moins 7 jours d'affilée. Mercredi, la République tchèque a enregistré 10 854 nouveaux cas de Covid-19, soit un tiers de moins qu'il y a une semaine, où un nombre record de 17 700 nouveaux cas avait été dépisté. Le nombre de cas positifs est passé de 45,6% à 34,6% en une semaine. 70 680 personnes avaient été vaccinées en République tchèque à la date du mercredi 13 janvier à 18h selon les dernières données du ministère de la Santé. Plus tôt dans la journée de mercredi, le Premier ministre tchèque avait estimé qu'entre 70 et 75 000 personnes avaient déjà été vaccinées contre le Covid-19 en Tchéquie. S'exprimant dans un centre de vaccination de Brno, Andrej Babiš avait déclaré que les chiffres étaient plus importants que les 60 000 vaccinations annoncées auparavant. Plus de 169 000 doses du vaccin Pfizer-BioNTech sont déjà arrivées en République tchèque, dont la moitié rien que pour la journée de mardi. Selon le Premier ministre, le gouvernement envisage des mises à jour quotidiennes du nombre de personnes vaccinées. Quelques 838 000 personnes font partie du groupe prioritaire pour être vaccinées contre le Covid-19 en Tchéquie, selon l'agence de presse tchèque ČTK, qui se base sur la nouvelle méthodologie développée par le gouvernement dans le cadre de sa stratégie vaccinale. Une première méthodologie comptait sur 210 000 personnes de moins début janvier. Tous les employés des services médicaux, les étudiants en médecine et les bénévoles travaillant dans les hôpitaux ont été ajoutés à ce groupe prioritaire, tout comme le personnel pénitentiaire, particulièrement touché par des clusters. L'Autriche a annoncé qu'elle fermait à compter de ce jeudi 42 points de passage à sa frontière avec la Tchéquie en lien avec la situation sanitaire actuelle chez son voisin. Seuls 7 grands points de passage restent aujourd'hui ouverts dans le sud de la Bohême. Mais comme le souligne le porte-parole de la police locale interrogé par l'agence de presse tchèque ČTK, la plupart des passages frontières fermés sont pour les piétons. Tous les grands points de passage restent ouverts pour que les personnes qui en ont besoin, puissent se rendre en Autriche pour leur travail ou leurs études d'asile. Précisé, depuis le 9 janvier dernier, l'Autriche a également rétabli les contrôles aux frontières. Les personnes en provenance de Tchéquie doivent signer une déclaration sur l'honneur, attestant qu'ils se placeront en quarantaine au risque de se faire intimer et de rebrousser chemin. Les travailleurs frontaliers et les transporteurs routiers bénéficient d'une exception aux tests négatifs obligatoires et à la quarantaine. La police tchèque a ouvert une enquête concernant le serveur tchèque Xvideo, le plus grand site internet pornographique au monde, selon le quotidien tchèque Deník N. Et à l'instar de son concurrent Pornhub, secoué par un scandale similaire, le site propose notamment des contenus illégaux mettant en scène des enfants ou des scènes de violence réelles. Xvideo est le premier site de streaming pornographique gratuit au monde en termes de trafic. Basé à Prague, dans une rue adjacente de la place Venceslas, le groupe WGCZ, qui exploite entre autres le site pornographique Xvideo, a été créé par un Français, Stéphane Paco. En 2018, il avait racheté le célèbre magazine pour hommes Penthouse avec une offre de 11,2 millions de dollars. On termine par un mot de météo. C'est un temps couvert avec toujours des chutes de neige dans toute la Tchéquie qui prévaudra vendredi, jour de fête des Alice. Les températures continueront à baisser avec des moyennes maximales autour de moins 2 degrés. Attention, alerte pour les automobilistes qui sont invités à ne pas circuler en montagne sans l'équipement hivernal nécessaire puisque les fortes chutes de neige dans la nuit de mercredi à jeudi ont compliqué la circulation sur les routes tchèques et tout particulièrement évidemment sur les sommets. C'est la fin de ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme. Restez avec nous.
Faits et événements en République tchèque.
Merci Anna Kubishta. Place en effet à la suite de cette émission de Radio Prague International en français. Le nombre de crimes et délits perpétrés en République tchèque a baissé de 17% en 2020. Les détails dans ce programme d'actualité. Prague va offrir une seconde vie à son arbre de Noël installé traditionnellement sur la place de la vieille ville. Cette année, le sapin sera recyclé par les élèves d'un lycée pragois. Nous vous en dirons plus avant d'évoquer le parcours du poète Jaroslav Sajid. Seifert, mort il y a 35 ans. Très bonne écoute à toutes et à tous. Criminalité en baisse, meilleure qualité de l'air ou encore plus grande sécurité routière. En République tchèque aussi, chiffre à l'appui, l'épidémie de coronavirus a quelques impacts positifs. Les détails avec Guillaume Narguet.
La République tchèque est généralement considérée, et à juste titre, comme un des pays les plus sûrs dans le monde. Il suffit de se promener dans les rues, même les plus sombres des grandes villes, de faire l'expérience, pratiquement en toute confiance, des transports en commun ou d'un retour à pied chez soi aux heures les plus avancées de la nuit pour en avoir la confirmation. Dans les journaux, les faits divers ne remplissent d'ailleurs que rarement bien peu de pages. La République tchèque figure donc en bonne position dans les classements établis par les compagnies d'assurance voyage en fonction du niveau de sûreté et de sécurité. Certes, les touristes étrangers se plaignent parfois de l'accueil peu avenant qu'il aurait réservé dans les commerces et restaurants de certains vols de pickpockets à Prague notamment, ou encore des arnaques des chauffeurs de taxi. Mais dans l'ensemble, il faut bien le dire, pas de quoi fouetter un chat. Dans la dernière liste annuelle établie par l'Institut pour l'économie et la paix de la République tchèque, où les policiers savent se faire très discrets, figurait également en 10e position parmi les pays les plus paisibles au monde. Les derniers chiffres ont confirmé un peu plus encore ce constat.
Kriminalita v Česku se loni snížila. Policisti evidovali zhruba 165,5 tisíce trestných činů. O 17% míň než v roce 2019. Pachatelé způsobili škodu celkem...
Comme l'annoncé la télévision tchèque lundi soir, avec un peu plus de 165 000 infractions pénales traitées par la police dans l'ensemble du pays, crimes et délits en tout genre ont baissé de 17% en 2020. Des vols sans violence, au meurtre en passant par les destructions et dégradations volontaires, les cambriolages ou encore les coups et blessures sur personne, tous les indicateurs apparaissent en phase descendante. Si le confinement de la population, comme dans beaucoup d'autres pays, empêchant certaines formes de délinquance, a forcément contribué à cette évolution positive, il n'est cependant pas la seule explication, comme l'a confirmé le porte-parole de la police tchèque, Andrzej Moravčík, lundi, et ce, lors de la publication des données annuelles. On écoute Andrzej Moravčík.
Hlavní příčiny tohoto poklesu nápadu trestné činnosti lze samozřejmě spatřovat v omezujících opatřeních.
Les principales raisons de cette baisse sont bien évidemment à chercher dans les mesures de restriction qui ont réduit les déplacements des personnes, les séjours des visiteurs étrangers en République tchèque, mais aussi l'amendement du code pénal qui a augmenté la limite du montant du dommage causé lors d'une infraction. Celle-ci n'est désormais plus qualifiée de délit qu'à partir de 380 euros.
Zákoníku, ve které došlo ke změně hranice výše škody při kvalifikaci trestného činu na 10 000 korun.
Bien qu'elle oscille en baisse de 20%, la criminalité financière représente toujours plus de 70% de l'ensemble des délits en République tchèque. Si toutes les régions du pays peuvent se féliciter d'une amélioration, c'est bien évidemment à Prague, dont les rues vides dans le centre historique ont parfois été méconnaissables l'année dernière, que la baisse la plus forte de la criminalité a été enregistrée.
Ovzduší v tuzemsku se loni výrazně pročistilo. Hodnoty některých polétavých látek se podle meteorologů dostaly na nejnižší úroveň za celou dobu měření. Pomohlo tomu teplejší počasí.
Les périodes de confinement et la forte réduction des déplacements ont également contribué à une nette amélioration de la qualité de l'air respiré par les Tchèques. Mieux même, pour certains critères, comme les particules en suspension ou encore les oxydes d'azote émis par la moitié des véhicules et dont l'impact est néfaste à la fois sur la santé de la population et sur l'environnement. Les données obtenues sont les meilleures depuis le début des mesures. Dans la plupart des régions, ces stations de mesure sont pourtant en service depuis les années 1990 ou le début des années 2000. Moins de déplacements, on l'a dit, moins de trafic sur les routes et dans les airs, moins de pollution et aussi donc, logiquement, moins d'accidents. L'accidentalité en baisse de 12% en 2020 permet à la République tchèque d'afficher sa plus faible mortalité de ces 60 dernières années. Attention toutefois, si la République tchèque compte de manière générale parmi les pays les plus sûrs au monde, comme nous l'avons déjà dit, cette affirmation n'est pas valable pour la sécurité routière. En effet, malgré l'amélioration d'ensemble de la situation observée ces 25 dernières années, la République tchèque, à l'échelle de l'Union européenne, ne figurait en 2019 qu'à la 17e place au classement des victimes d'accidents, avec 58 décès par million d'habitants, alors que la moyenne des 27 s'établissait à 51.
La mairie de Prague a pris de bonnes résolutions et entend bien s'y tenir cette année. Pas question de jeter ni d'incinérer l'arbre de Noël installé sur la place de la vieille ville. Illumination retirée, le grand sapin sera recyclé par les élèves d'un lycée professionnel au profit d'une maison de retraite, comme nous le raconte Thibaut Maillet.
Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Cette phrase du chimiste français Lavoisier, la mairie de Prague voudrait en faire sa devise, c'est en tout cas ce que le maire de la capitale souhaite appliquer à l'arbre de Noël monumental qui trônait sur la place de la vieille ville. L'arbre, un épicéa de près de 18 mètres de haut, avait été abattu dans le sud de Prague fin novembre pour être ensuite installé et décoré aux couleurs du drapeau tchèque. Covid-19 oblige. Le spectacle qui accompagne traditionnellement sa mise en lumière lors du premier week-end de l'Avent s'était tenu sans public et dans un format réduit, sans marché notamment. Malgré cela, tout au long du mois de décembre, de nombreux Tchèques sont venus admirer l'arbre ou se prendre en photo devant. Mais pas question de prendre racine sur les pavés de la place, cela fait désormais 10 jours depuis la fête de l'Épiphanie que les centaines de décorations ont été retirées et les 6 kilomètres de guirlandes enroulées dans l'attente des prochaines fêtes de fin d'année. L'arbre aussi a été enlevé, mais cette année, plus question de se débarrasser de son tronc dans une décharge ni de l'incinérer. Dès l'inauguration, le maire de Prague, le pirate Zdeněk Hřib, avait expliqué le but de sa démarche.
Ce sont les Pragois qui, en votant sur les réseaux sociaux, ont choisi la décoration lumineuse de ce sapin de Noël. Les couleurs des lumières évoquaient le centenaire de la création des symboles nationaux tchèques. Ce sapin jouera ensuite un autre rôle symbolique. Il sera mis à disposition des élèves du lycée professionnel de Jarov qui fabriqueront avec son bois des meubles destinés aux centres sociaux de Prague.
Chaque année, les branches et les épines de l'arbre partaient au zoo de Prague pour y nourrir les animaux. Désormais, le tronc va connaître une seconde vie, direction d'abord une scierie, puis le lycée professionnel de Jarov, situé dans l'ouest de Prague, pour y être transformé en meubles par les élèves et leurs professeurs. À terme, ils équiperont une maison de retraite. Pavel Noha enseigne au lycée de Jarov, où il est aussi en charge des relations internationales. Selon lui, les attentes de la direction de la maison de retraite et des résidents étaient spécifiques.
The seniors' house is in Prague 10, in Malešice.
La maison de retraite, un établissement de taille moyenne, se trouve dans le 10e arrondissement de Prague. Les représentants de l'école s'y sont rendus récemment pour convenir des détails et prendre les mesures. C'est ainsi qu'ils ont décidé de fabriquer des jardins mobiles. Ce sont des bacs montés sur des roulettes, des bacs que l'on remplit ensuite de terre et qui permettent de faire un peu de potager.
Vegetables, herbs, strawberries, blueberries, tomatoes, whatever.
Une incertitude demeure cependant si le bois sera prêt à être transformé dans un mois. Pavel Noha craint que les élèves ne puissent pas travailler dessus à cause de la fermeture des établissements scolaires.
It was cut into pieces. And now it's being dried in the
Le bois qui a été découpé sèche actuellement dans un équipement spécial. Ce bois sera prêt dans 3 à 4 semaines et disponible donc pour l'école. Reste à savoir si les élèves seront revenus d'ici là. Ce serait bien qu'ils puissent commencer à travailler dessus quand l'école rouvrira ses portes.
La mairie de Prague a d'ores et déjà fait savoir qu'elle comptait recycler chaque année le tronc de l'arbre de la place de la vieille ville. Une opération avant tout symbolique, certes, mais qui pourrait faire durer un peu plus la magie de Noël, peut-être même jusqu'au début de l'été, date de livraison prévue des meubles dans la maison de retraite.
Il y a 35 ans, le 10 janvier 1986, disparaissait le grand poète tchèque Jaroslav Seifert, prix Nobel de littérature. L'année dernière, Václav Richter lui a consacré un épisode de notre série « Les livres tchèques incontournables ». Nous vous proposons cette émission en rediffusion.
Ma longue existence m'a enseigné que le plus beau cadeau que la vie puisse offrir, c'est la musique et la poésie, excepté l'amour, bien sûr. Ces vers tirés du livre « Être poète », le dernier recueil de Jaroslav Seifert publié en 1983, illustrent avec simplicité et sobriété le trajet parcouru par le poète, né en 1901 dans le quartier ouvrier de Žižkov à Prague. Son père est un social-démocrate actif, sa mère est une catholique pratiquante, et ces contrastes marqueront toute la vie et l'œuvre du poète. L'enfance passée dans ce quartier ouvrier, la misère environnante qui guette aussi sa famille, attise sa compassion avec les pauvres et son sens de la justice sociale. Étudiant doué mais négligent, il déserte le lycée avant la fin de ses études et se lance dans le journalisme. À l'âge de 20 ans, il adhère au Parti communiste de Tchécoslovaquie qui vient d'être fondé et ses articles paraissent régulièrement dans l'organe du parti Rudé Pravo. Son premier recueil, Une ville en pleurs, peut être classé encore dans la catégorie de la poésie prolétarienne, mais sa nature sensuelle et ouverte aux beautés et aux tentations du monde l'amènera beaucoup plus loin. Son lyrisme spontané éclate déjà dans le recueil suivant. Historien de la littérature, Jiří Fleischmann dira de sa poésie.
Je ne sais pas si Seifert est la plus grande personnalité poétique de la littérature tchèque du XXe siècle, mais je pense que le poète et critique littéraire Bohumil Hrabal et d'autres chercheurs ont réussi à saisir parfaitement le trait qui identifie cet auteur dans le pléiade des poètes tchèques de sa génération et même des générations postérieures. Il abordait la poésie comme quelque chose pouvant être considéré comme un entretien tout à fait courant. Il a fait descendre la poésie des auteurs et l'a transformée en quelque chose de courant, proche et donc naturel.
Les années 1920 sont l'époque des avant-gardes. Et Jaroslav Seifert s'impose bientôt comme une figure importante du poétisme, un courant artistique tchèque qui cherche à transformer en poésie la réalité quotidienne par l'optimisme et l'esprit de jeu. Cette tendance se manifeste notamment dans le recueil sur les ondes de la TSF et le Rossignol chante mal. Avec le temps, l'auteur se détache cependant des avant-gardes. Sa nature profondément lyrique rechigne à se plier à ces nouvelles doctrines qui cherchent à révolutionner la littérature et les arts. Son sens de la vérité et de la justice ne lui permet pas non plus de se conformer à la politique du Parti communiste. En 1929, il est exclu du parti pour avoir critiqué ses tendances autoritaires et sa bolchevisation sous la tutelle de Moscou. En 1930, il adhère au Parti social-démocrate et poursuit simultanément une carrière de journaliste et de poète. Bien qu'il soit un poète lyrique, sa poésie ne reste pas indifférente aux grands tournants historiques et aux secousses politiques des années 1930 et 40. Dans le recueil « Éteignez la lumière », l'éventail de Bojena Nemtsova et le casque rempli d'argile, sa poésie reflète la profonde déception et la colère après la signature des accords de Munich, la résistance, l'angoisse et le patriotisme profond sous l'occupation allemande et la jubilation après la libération de son pays en 1945. Cependant, l'optimisme de l'après-guerre fait long feu. Après la prise du pouvoir par les communistes en 1948, le poète refuse de se résigner au nouveau régime totalitaire et d'adhérer à la nouvelle Union des écrivains tchécoslovaques. Le nouveau régime ne pardonne pas une telle liberté d'esprit. Le poète tombe en disgrâce et se consacre entièrement à la littérature, mais ses écrits cessent pratiquement de paraître. C'est pendant cette période de disgrâce qu'il écrit cependant quelques-uns de ses recueils les plus célèbres, les plus charmants, les plus aimés, comme la chanson de Victor K., livre qui célèbre l'amour en s'inspirant de l'œuvre et de la vie de l'écrivaine Boujena Nemtsova. Dans le recueil intitulé tout simplement « Maman », il fait ressurgir du passé les souvenirs de l'enfant pauvre qu'il a été et qui était pourtant heureux grâce à sa mère qui illuminait le printemps de sa vie par son amour. Le vers simple et chantant de ce recueil qui évoque en sourdine les moments du bonheur mais aussi des pertes irréparables sont peut-être la plus belle expression de la tendresse filiale dans toute la poésie tchèque. Ce n'est qu'en 1956 que le poète sort de son exil intérieur et devient un des principaux artisans du renouveau de la littérature tchèque en prononçant en 1956 un célèbre discours devant le congrès des écrivains tchécoslovaques.
Znova a znova slyšíme tu zaznívati, a to z úst nikterak nevýznamných.
Nous entendons toujours et toujours les voix disant que l'écrivain doit écrire la vérité. Cela signifie, si je comprends bien, qu'au cours de ces dernières années, les écrivains n'ont pas écrit la vérité. Ont-ils écrit la vérité ou ne l'ont-ils pas écrite, volontairement ou involontairement, avec ou sans complaisance? Je me retourne sur le passé, cherchant en vain parmi les grands poètes tchèques, comme Neruda, Tchèque, Machar et Dick, un seul qui se serait arrêté au milieu de son œuvre pour annoncer à son peuple et à ses lecteurs qu'il n'a pas dit la vérité. Vous souvenez-vous d'un seul de ces écrivains qui aurait dit « Lecteur, pardonne-moi, je passais à côté de ta douleur et des souffrances du peuple tchèque et j'ai fermé les yeux. Je n'ai pas dit la vérité. Si quelqu'un d'autre tait la vérité, c'est peut-être une sorte de manœuvre tactique. Si c'est un écrivain qui tait la vérité, il ment. »
Le ton est donné. Désormais, les dirigeants communistes savent que Jaroslav Seifert est un adversaire redoutable qui ne se laisse pas museler par la peur et par les avantages réservés aux écrivains serviles. Et le poète récidive encore vers la fin des années 1970 lorsqu'il signe la charte 77, document appelant les autorités du pays occupé par l'armée soviétique à respecter les droits de l'homme. Ils aimeraient faire taire ce témoin incorruptible du marasme culturel et intellectuel dans lequel ils ont entraîné leur pays, mais la renommée de l'écrivain est déjà trop importante et échappe à leur contrôle. Lorsque Jaroslav Seifert reçoit en 1884 le prix Nobel de littérature, il cherche donc à atténuer le caractère conflictuel des rapports entre le poète et le régime, parasitant la gloire de l'écrivain nobelisé. Le ministre de la Culture rend visite au poète hospitalisé à Prague et la radio officielle diffuse même une courte interview avec lui. Interrogé sur sa réaction à l'heureuse nouvelle, Jaroslav Seifert répond très brièvement.
J'ai été très surpris. Je suis heureux, bien sûr. Je ne m'y attendais pas. Qui ne serait pas heureux à ma place? Je pense aux poètes qui mériteraient eux aussi un tel hommage, comme Hora, Nezval, Halas et Holland.
Dans les dernières décennies de la vie de Jaroslav Seifert, le style et le caractère de sa poésie changent. Le poète tend vers la simplicité et la sobriété. La poésie musicale et chantante, qui était son domaine, s'assagit et prend un aspect contemplatif. L'amoureux de la vie abandonne la beauté sensuelle de ses vers, renonce au rythme et à la rime qui berçait voluptueusement ses lecteurs. Dans les recueils, la comète de Halley, la colonne de la peste et le parapluie de Piccadilly, ce n'est plus un jeune poète passionné qui chante, mais un homme âgé et sage qui parle. Ses poèmes sont désormais écrits en vers libres et se rapprochent de la prose. Le puits du lyrisme est épuisé. Il ne reste que la beauté austère de la vérité. Jaroslav Seifert meurt en 1986 et les autorités craignent que ses obsèques officielles dans la grande salle de Rudolfinum ne se transforment en une manifestation contre le régime. L'écrivaine Milena Strafeldova, qui était à cette époque fonctionnaire du ministère de la Culture, chargée de coordonner les préparatifs de la cérémonie surveillée par la police politique, n'est pas prête d'oublier la fébrilité qui accompagnait cette journée de deuil.
Od rána, od velmi časných ranních hodin se před Rudolfínem scházely opravdu stovky a tisíce lidí.
Dès le matin, des milliers de personnes attendaient devant le Rudolfinum de Prague et, très disciplinées, faisaient la queue pour pouvoir s'incliner devant le catafalque du poète. Ils ont apporté une immense quantité de fleurs. Tout cela était étroitement suivi par la STB qui cherchait à éviter surtout les gerbes aux inscriptions provocatrices. Je me rappelle qu'un agent de la STB s'est littéralement jeté sur une gerbe de la section de jazz, association œuvrant pour la liberté de la culture. On a donc cherché à éliminer toute allusion à la résistance et à l'opposition.
Už snažili vyloučit jakýkoliv náznak odporu nebo opozice.
On dirait que c'est la poésie elle-même qui pleure le poète disparu, car avec lui disparaît aussi une certaine idée de la poésie. Il était le dernier chanteur parmi les poètes tchèques, le dernier auteur qui savait caresser l'âme du lecteur par ses vers sans tomber dans la mièvrerie. Même ses poèmes les plus doux ne sont jamais douceâtres. Il a su transformer les moyens de la poésie classique et leur ôter tout académisme, toute artificialité, toute affectation. Ses vers coulent des sources profondes de son génie comme une eau cristalline et touchent directement le cœur du lecteur en lui parlant des choses importantes de la vie. Le plus grand thème de son œuvre est l'amour. Trois sortes d'amour dominent toute sa création, l'amour de la femme, l'amour de la mère et l'amour de la patrie, mais il a exprimé par ses vers aussi tout un éventail d'autres thèmes et de sensations intimes qui font vibrer encore aujourd'hui l'âme de ses lecteurs. Et finalement, dans la dernière étape de sa vie, il a refusé de chanter faux et a eu le courage d'avouer que les sources de son lyrisme étaient taries et de se résigner à écrire les poèmes dépouillés et austères de sa vieillesse. La poésie a toujours été pour lui une force essentielle qui alimentait sa vie.
Básník Robinson Jeffers, kde si říká, že všechny...
Le poète Robinson Jeffers dit quelque part que toutes les choses dans ce monde sont belles et que c'est au poète de choisir ce qui perdurera. Je le dirais un peu différemment. Toutes les choses dans ce monde ne sont pas belles, mais celles qui vous choisissent perdureront au moins aussi longtemps que vivra le poème que vous allez écrire. La force invisible de la poésie imprègne le monde entier et produit des miracles qui sont à la portée de nos yeux, que ce soit l'espoir ou le désespoir, le grondement des canons ou une idylle paisible qui se trouve sur son chemin. Elle est partout, comme l'eau et comme l'air, et comme eux, elle est quasi éternelle.
C'est la fin de cette émission de Radio Prague International en français. Elle vous a été présentée par Magdalena Hrozinková. Merci de votre attention. L'actualité tchèque en français, ça continue sur français.radio.cz et aussi sur Twitter et sur Facebook. Portez-vous bien. À demain. Naslyšenou.